Donc, oui, la dévotion des débris, une politique des Lucioles. En exergue, je cite une phrase de Donald Trump prononcée lors de son discours de lancement de campagne, qui disait « The American Dream is dead ». Pour les habitants de Richelieu et sa région, l'usine déserte Bennett Fleet, située à la sortie du pont Hewitt qui traverse la route 112, semble faire partie du décor. Ses fenêtres volées en éclats et ses immenses graffitis sur le toit de l'édifice qui ont probablement exigé des acrobaties irréalisables n'offusquent plus personne. On ne questionne jamais le fait qu'elle soit fermée depuis de nombreuses années. Les temps ont changé, explique-t-on. Les coûts de production et de transformation de la matière en Amérique sont désormais trop élevés. Les organisations syndicales en demandent beaucoup trop. Elles nuisent au développement de l'économie et obligent les entreprises à quitter le pays. Comprenez-moi bien, il faut contrer l'essor de la superpuissance chinoise et demeurer compétitif devant les grandes industries européennes. Tout le monde sait cela. Pourtant, sur toutes les chaînes télévisées, on peut voir Donald Trump promettre la résurrection de la superpuissance militaro-industrielle américaine à une horde révulsée de sympathisants républicains. Aujourd'hui, à Richelieu, petite ville industrielle du Québec, on retrouve 4 Tim Hortons à quelques kilomètres de distance, 2 bars de danseuses, des restaurants sportifs et un nombre ridicule de concessionnaires automobiles et de stations-service. L'industrie va bien où elle veut. Depuis quelque temps, chaque fois que cette usine surgit dans le pare-brise, une pensée me traverse l'esprit et revient me hanter. Ma grand-mère a travaillé là durant la crise économique des années 30. J'ai toujours beaucoup parlé avec elle de sa vie d'ouvrière et de servante dont seul le mariage a pu la délivrer. Elle aimait sa bière avec du sel, jurait contre la paresse des joueurs du Canadien de Montréal, vantait l'époque des ballrooms et les swings du Glenn Miller Orchestra. Avant d'épouser René, me disait-elle, j'ai connu bien des hommes, des patrons surtout. Dès ses 15 ans, son père l'avait forcée à s'user les doigts comme apprentie couturière à la Bennett, et elle devait, comme presque toutes les jeunes filles de son âge, rendre la totalité de son salaire pour subvenir aux besoins de sa famille, très pauvre, comme la plupart des ménages canadiens-français de l'époque. Constamment, des superviseurs défilaient entre les rangées de machines à coudre. Ils hurlaient aux femmes de se dépêcher dans une langue qu'elles ne connaissaient pas. À de nombreuses reprises, un subalterne, toujours la même, en profitait pour gifler ma grand-mère et les autres, quand ses collègues avaient le malheur de détourner le regard. Aucune n'y échappait. C'est en trébuchant sur le sol accidenté couvert d'herbes folles de l'usine Bennett, où je suis entré par infraction un soir, que j'ai aperçu une faible nuée de lucioles qui m'a rappelé la survivance des lucioles dont parle Georges Didier Oberman dans un essai du même titre. Couché par terre, j'ai observé pendant de longues minutes les corps minuscules des lucioles irradiées dans les saccades blanches de la nuit. Derrière le silence, on pouvait entendre le grondement des poids lourds. Au-dessus des lucarnes, je devinais la lumière des projecteurs du concessionnaire Ford qui demeure allumé jusqu'à l'aube. Ce grondement de l'Amérique ne fait que broyer des rêves. Il faut beaucoup se perdre, disparaître dans plusieurs vies, pour survivre à cette ville. Quand je me suis retourné, les lucioles avaient disparu. Quelques mois avant sa mort, le cinéaste et poète Pier Paolo Pasolini a écrit un de ses textes les plus célèbres, « Le lieu vide du pouvoir en Italie », mieux connu sous le titre « La disparition des lucioles ». Dans ce bref essai d'une rare densité, Pasolini crée la figure mystérieuse de la Luciole qui incarne à la fois l'expérience perdue dont parlait Walter Benjamin, la survivance indestructible de cette expérience et l'héritage problématique que peut offrir une telle expérience de la pauvreté. Selon Pasolini, je le cite, « Au début des années 60, à cause de la pollution atmosphérique et surtout à la campagne, à cause de la pollution des eaux, fleuves d'azur et canaux transparents, les lucioles ont commencé à disparaître. Le phénomène a été fulminant, foudroyant. Au bout de quelques années, c'en était fini des lucioles. Elles sont aujourd'hui un souvenir quelque peu poignant du passé. Qu'un vieil homme ou une vieille femme s'en souviennent, peuvent se retrouver telles qu'en leur jeunesse dans les jeunes d'aujourd'hui. Ils ne peuvent donc plus avoir les beaux regrets d'autrefois. Ce quelque chose survenu il y a une dizaine d'années, je l'appellerai donc, dit-il, disparition des lucioles. Depuis ma naissance, j'ai pu constater la fermeture de 3 usines à Richelieu. La Bennetley, une bonneterie dont je n'arrive pas à retracer le nom malgré de patientes recherches, et l'usine Pee-Wee qui a péri dans un incendie accidentel au milieu des années 90. Le terrain vague derrière chez moi où j'arrivais à suspendre le temps à l'aide des hennissements d'un balai déplumé a été recouvert de béton et est désormais surplombé par une clinique d'urgence. Tout comme dans la campagne italienne de Pasolini, quelque chose est survenu il y a une dizaine d'années, emportant avec elle un monde que les jeunes enfants rigolant à présent dans le parc municipal n'ont pu connaître, tout comme le Richelieu industriel des années 30 que j'ai pu entrevoir partiellement qu'à travers les souvenirs de ma grand-mère. Pasolini est le premier à avoir reconnu l'existence d'une politique des Lucioles. Les dirigeants du pouvoir démocrate chrétien ont laissé les Lucioles s'éteindre. Ils n'ont pas eu connaissance de leur disparition parce qu'ils étaient trop occupés à développer la stratégie économique et industrielle de l'Italie supposément post-fasciste. La politique des Lucioles consiste d'abord à retrouver les Lucioles, à retracer leur sillage dans la nuit et d'interroger leur absence. Son exigence est de comprendre notre temps par son manque de Lucioles. Les masques doivent flamber et la continuité des fascismes, le règne des états d'exception doivent basculer dans les mains de celles et ceux qui transmettent des héritages de pauvreté et d'humiliation depuis des siècles. Je suis certain, écrit Pasolini, que si on ôtait ces masques, on ne retrouverait même pas un tas d'os ou de cendres. Il y aurait le néant, le vide. Il y a en réalité aujourd'hui en Italie une dramatique vide du pouvoir. Mais nous y voilà. Pas un vide de pouvoir législatif ou exécutif, pas un vide de pouvoir dirigeant, ni pour finir, un vide de pouvoir politique, qu'il soit pris dans n'importe quel sens traditionnel, mais un vide de pouvoir en soi. Ce vide de pouvoir constitue une impuissance générale des peuples devant les forces de destruction qui se déchaînent contre l'humanité depuis la révolution industrielle, qui l'oblige à entretenir le désordre planétaire où s'enfonce le cours du monde dans le seul but d'éviter des entraves aux ententes de libre-échange qui garantissent le développement infini des économies occidentales. La disparition des Lucioles est le résultat d'une démission organisée des gestionnaires d'État, un désaveu total de leur responsabilité en principe inaliénable envers les populations et leurs intérêts qu'ils prétendent défendre fièrement. L'absence de Lucioles dans les campagnes italiennes et américaines témoigne de leur effacement, de leur lâcheté devant les situations d'affaires avantageuses et les pressions incessantes de l'hégémonie bancaire qui demande aux États d'arnacher le discernement des institutions, de réaménager le territoire et de céder ses ressources en fonction d'assurer la pérennité du projet industriel. La disparition des Lucioles correspond à ce que René Lapierre appelle le dépaysement. Les gouvernements que nous avons, écrit-il, quels qu'ils soient, s'emploient à nous dépayser. Il faut l'entendre littéralement. S'emploient à refuser aux hommes et aux femmes toute terre, toute culture, toute identité qui ne soit pas d'abord et avant tout bonne pour les affaires, requise par elles, et d'emblée rendue à l'argent. Cela renvoie à des formes d'exploitation du travail et du sol qui ont intérêt justement à ce que la notion de pays n'apparaisse pas. Quand certains lieux sont ensevelis sous d'autres lieux, le corps brûlé des Lucioles apparaît. Elles envoient leur signal désespéré. Quelque chose repose ici. Il n'y a pas de lieu sans esprit. L'endroit apparaît parce qu'on y entend, je cite René Lapierre, « chargé de ce qui se rappelle et détaché de ce qui fut ». Pas souvenir, mémoire. Quelque chose qui ne va pas, pour reprendre une autre formule de René Lapierre. On peut parler d'un mensonge qui réunit tous les hantises de l'histoire américaine, qui réveille ses fantômes. Celui des États-Unis qui se sont conçus comme une exception de l'histoire, pire encore, comme son recommencement. Alors on ne questionne plus rien. Certains morts disparaissent des registres pendant un sermon sur le destin de l'avenir, sur le destin de la démocratie libérale. Les guerres civiles sont des choses qui arrivent, vous savez, et entre nous, dit le membre du Parti républicain, honnêtement, que serait devenu ce pays si nous l'avions laissé aux Indiens? Et après cela, certains se font une fierté d'affirmer que le fascisme est bel et bien mort avec la dépouille de Mussolini. Pour Pasolini, la disparition des Lucioles signifie tout à fait le contraire. Le fascisme a survécu, il est tout aussi dépaysant qu'autrefois et se cache derrière la dureté des gestionnaires, de leurs objectifs d'efficacité organisationnelle. Tout a été prévu, savamment calculé. Si les choses tournent mal, nous pouvons toujours fermer et déménager. Nous sommes libres. L'idée est peut-être excessive, mais je considère les usines désaffectées de l'Amérique comme des miroirs du progrès, des miroirs brisés dont les éclats s'enfoncent dans le sol exproprié de l'histoire. À présent, un visage à lui seul ne renvoie aucune image devant la gigantesque structure de béton et les fenêtres en pièces d'où on peut observer les corridors vides de l'usine, ses poutres grises au seuil de l'effondrement. C'est le reflet défigurant d'une communauté qui surgit à travers les copeaux de vitres qui jonchent le chemin de l'usine. Comment peut-on circuler près de ces bâtiments tous les jours sans reconnaître la tragédie de leur abandon? Il est impossible de répondre simplement « c'est comme ça ». Pourtant, cette phrase incarne toute la magie de l'Amérique. Son continent carbure à la fierté d'être irréparable. L'irréparable nous protège, il fait en sorte, je cite Giorgio Gamben, que les choses soient comme elles sont, d'une manière ou d'une autre, livrées sans remède à leur manière d'être. Irréparables sont les états de choses, quels qu'ils soient, tristes ou joyeux, atroces ou bien heureux. Ces usines désertes forment des espaces désavoués de la mémoire américaine. Elles sont les traces visibles de l'échec du rêve américain. Plus encore, l'échec de l'Amérique comme exception et recommencement de l'histoire en rupture avec le passé de l'Europe. Nous avons été épargnés d'Auschwitz, entendons-nous dire parfois, comme si l'histoire américaine était exempte de génocide, de crimes d'État et de cruauté. Comme si l'Amérique était sans aucun doute le dernier refuge contre la barbarie et l'absence de recours démocratique. Pourtant, nous sommes en Amérique, et les politiques du mépris s'exercent quotidiennement. La violence économique sévit partout. Donald Trump fait la location de foule lors de ses assemblées. Il paie des femmes mexicaines pauvres qui l'interrompent durant ses discours et hurlent à la foule à quel point elles ont foi en lui et que seul cet homme peut rendre l'Amérique grandiose à nouveau. Personne n'y croit vraiment, mais tel est le mythe. Il nous fait du bien malgré sa terrible grossièreté. Et parfois, on se laisse prendre au jeu. À 2h du matin, après plusieurs reprises d'une envolée de Trump, une question s'empare de nous. Où est donc passée l'Amérique? Comment lisons-nous l'Amérique? Qu'en avons-nous fait? Demande René Lapierre. Je cite, « Il n'est pas une chose que nous possédons. Il nous faut apprendre à la lire et à la reconstruire, élément par élément, à commencer par les corps et les voix, les milliers d'œuvres dont les journaux ne parleront jamais, que nul ne recevra si nous ne nous y employons pas. L'Amérique a déjà existé comme commencement. Le rêve américain a existé lui aussi comme vision et ferveur, mais il s'est vu recyclé en idéologie. Il s'est mis à mentir et à dissimuler. Il s'est, comme une baudruche électorale, dégradé en parodie du politique et du civique, jusqu'à faire écran et passer un jour dans la grande amnésie de la consommation pour la réalité. » Que peut-on reconstruire avec les restes de l'Amérique? Ses rêves sont morts, certains quartiers de ses métropoles sont condamnés. On y coupe l'électricité et l'eau courante afin de repousser les meutes de squatteurs. Certaines villes deviennent de véritables mausolées de l'époque industrielle. Des carcasses de tracteurs s'entassent dans les dépotoirs. Les derniers fleurons de l'automobile ferment leurs portes et les politiciens s'acharnent à promettre la relance du projet industriel devant la menace éventuelle que représente le nombre croissant de chômeuses et de chômeurs dans les rues de l'Amérique. Tout porte à croire que l'histoire donne raison à Walter Benjamin et Pasolini. La puissance industrielle a détruit l'expérience. Les lucioles ne reviendront plus. Nous avons perdu la mémoire. Le cours de l'expérience a chuté, c'est vrai, écrit Didier Oberman. Mais il n'en tient qu'à nous de ne pas jouer cette bourse. Il ne tient qu'à nous de comprendre où et comment ce mouvement est en même temps rendu sensible dans ce qui disparaît, une beauté nouvelle. Cherchons donc les expériences qui se transmettent encore au-delà de tous les spectacles achetés et vendus autour de nous, par-delà l'exercice des règnes et la lumière des gloires. Nous sommes pauvres en expérience, faisons de cette pauvreté, de cette demi-obscurité, une expérience. Le cours de l'expérience a chuté, mais il n'en tient qu'à nous, dans chaque situation particulière, d'élever cette chute à la dignité, à la beauté nouvelle d'une chorégraphie, d'une invention des formes. La politique des lucioles est une politique de survivance. À travers elle, le passé refuse de disparaître et revient vers nous sous la forme de minuscules corps lumineux obligés de vivre la nuit. Si j'ai défini cette politique comme une tentative d'interroger notre temps à partir de son manque de lucioles, j'ai cherché par là à entendre des voix, parfois contraires, qui ne peuvent exister que dans la patience de celles et ceux qui osent encore visiter en secret les monuments non reconnus du monde industriel. Des voix qui nous apprennent à descendre vers le deuil de l'Amérique. Peut-être les lucioles qu'on y aperçoit ne sont que des distorsions de l'esprit. Peut-être sont-elles disparues depuis déjà 20 ans. Pourtant, il m'arrive encore de les apercevoir quand je sors marcher très tard et que l'Amérique semble se défaire un peu plus sous mes pieds. Mais je les vois. Elles brillent durant quelques secondes, se déplacent fébrilement, et j'ose les suivre jusqu'au moment où, me retrouvant les jambes noyées dans un amas de feuilles mortes, elles cessent complètement d'agiter leur lumière. Qu'y a-t-il donc ici? N'est-ce pas cela que l'Amérique peut nous transmettre aujourd'hui? Une expérience de la désorientation? Ma grand-mère habite désormais avec des centaines d'autres femmes dans un centre de convalescence prolongée à Marieville, une petite ville industrielle tout près de Richelieu. Elle ne parle presque plus, ne reconnaît plus les morceaux du Glenn Miller Orchestra et me méprend parfois avec le curé. Pour des raisons que j'ignore, elle a toujours détesté Marieville. À combien de reprises l'ai-je entendu vociférer « Je ne veux jamais finir mes jours dans cette ville malpropre. » Heureusement pour elle, lorsqu'elle fut transférée là-bas, suite à une chute sévère qui lui a définitivement brisé une hanche, elle n'avait déjà plus toute sa tête. Lorsqu'elle retrouvait temporairement sa lucidité et réalisait où elle se trouvait, ma grand-mère fondait en larmes durant de longues minutes. Tranquillement, elle s'est mise à oublier son âge, le nom de ses anciennes amies et, contre toute attente, l'existence de Marieville. Cela est très difficile à avouer, mais lui rendre visite ressemble de plus en plus à veiller une tombe. Une tombe entourée de lucioles. Pourtant, il lui arrive de me fixer avec ses yeux égarés, de serrer mes doigts en ouvrant quelque peu la bouche. Pendant un instant, je prie pour qu'elle dise enfin quelque chose. Puis elle se rendort tout doucement, comme si je m'étais évaporé à la manière de sa mère qui venait supposément la visiter, du temps où elle nous racontait encore ses journées. C'est en pensant aux yeux de ma grand-mère que j'ai écrit ce que je vous lis aujourd'hui. Les yeux de ma grand-mère sont aussi des miroirs fracassés. Cette femme est une luciole. Merci.